Merci beaucoup. Merci infiniment. Très heureux d'être avec vous, très heureux de continuer ce week-end avec vous. On était effectivement là hier pour un temps avec votre équipe de louanges, et puis hier soir aussi pour ceux qui étaient présents, on a vécu un temps de louanges tous ensemble. Et j'ai beaucoup de joie d'être là aussi ce matin avec toute l'église. L'église Connect, c'est une joie pour moi, pour mon épouse. On a deux de nos enfants qui sont là ce matin, Simon et Elisa. Notre grande, elle est très loin, elle est à des milliers de kilomètres. Elle est au Kenya actuellement, sur la terre des Maasai. Donc elle est en train de vivre une belle expérience là-bas jusqu'au 23 décembre. Mais on est vraiment en tout cas heureux de pouvoir servir le Seigneur ensemble en tant que famille. Vraiment, c'est vraiment une joie de pouvoir dire que nous servons Dieu ensemble. Et donc nous sommes basés à Lyon. Nous sommes sur Lyon depuis 2017. Nous sommes les pasteurs d'une église qui s'appelle l'église SOS. Si toutefois vous passez par Lyon un dimanche après-midi à 16h, vous êtes les bienvenus pour notre culte, puisque nous c'est l'après-midi. On est plutôt des... Voilà, on est juste des gens qui aimons simplement nous retrouver. On se retrouve l'après-midi, vous c'est le matin. Peu importe, le plus important c'est de se retrouver pour louer Dieu ensemble, peu importe l'heure. L'heure de la journée, de la nuit, le plus important c'est de pouvoir se retrouver et vivre cette communion. Amen. Donc aujourd'hui j'ai la joie de pouvoir vraiment encore partager un temps la parole de Dieu avec vous. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? On pose la question quand même à quelqu'un à côté de toi. Dis, est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu ce matin? Ouais, j'ai le réflexe de dire cet après-midi. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a de la place un petit peu dans votre cœur là maintenant? Ok? Est-ce qu'il y a de la place? Qu'il reste un petit peu de place de disponibilité pour recevoir la parole de Dieu? C'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et celle qui change nos vies, celle qui transforme nos vies, celle qui change nos cœurs, celle qui bouleverse nos vies. Est-ce qu'on est prêt à être un petit peu bouleversé ce matin? Un petit peu quand même, juste un petit peu, ok? Parce que c'est le but quand on vient devant le Seigneur, c'est qu'il nous bouleverse, c'est qu'il nous change, c'est qu'il nous façonne, c'est qu'il nous challenge aussi un petit peu. Et est-ce que vous êtes prêt à être challengé encore ce matin? D'accord, je vois que ça diminue au fur et à mesure que je pose des questions. Je vais arrêter de poser des questions et on va y aller ensemble. Et il y a de cela quelques semaines, on était en ligne avec mon beau-père. Et puis il nous parlait d'une tante à ma belle-mère justement, qui avait 98 ans. 98 ans, il a été la visiter, prendre un petit peu de temps avec elle. Et puis, elle était vraiment en pleine forme, 98 ans, la patate, quoi, vraiment une femme incroyable. Puis, il disait, mais c'est quoi ton secret pour être aussi en forme à 98 ans? Et c'était une femme qui était veuve, elle avait 8 enfants, une bonne vie, quoi. Il y a 98 ans, pleine patate. Elle lui dit, tu sais, Samuel, peu de gens le savent, mais tous les matins, depuis des décennies, à 2h30 du matin, je suis debout. Je suis debout et je prie. Je suis en connexion avec mon Dieu pendant 2 heures. De 2h30 à 4h30. Mais personne ne le sait, ça. Hein. Personne n'a besoin de le savoir. Mais depuis des années, puis tu sais, avec la vie de maman, avec 8 enfants, ben si on veut avoir du temps, ben il faut prendre le temps là où il est. Ok, là où on est sûr d'être au calme. Et depuis des décennies, elle se levait à 2h30, elle lui disait, mais aujourd'hui tu n'as plus les enfants, tu dis, oui mais j'aime ce moment avec Jésus, ce moment où je me retrouve là, 2h30. Bon, est-ce que c'est la recette ultime pour vivre une vie épanouie jusqu'à 98 ans? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il est important d'avoir de bonnes habitudes dans la vie. De très bonnes habitudes, de garder une bonne routine pour pouvoir être en bonne santé. J'ai envie de vous poser la question ce matin, quelles sont vos habitudes du matin au réveil? Quelles sont vos habitudes quand vous vous réveillez? Chanter des chants, c'est très bien ça, c'est très bien, très bien. Êtes-vous plutôt du genre dernière minute? Je me lève en dernière minute, je gratte un petit peu, je vois le réveil, vous avez peut-être sur vos iPhones plusieurs réveils, 6h05, 6h10, 6h15, 6h20. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui essayent d'aller jusqu'au bout, de grappiller quelques minutes encore, ou vous êtes plutôt de ceux qui anticipent, prenez du temps, vous aimez ne pas être dans le rush, peu importe. On a chacun un petit peu nos manières de faire. Et aujourd'hui, c'est un petit peu un effet de tendance. On nous parle justement de toutes ces routines qu'il nous faut acquérir pour vivre une bonne santé mentale, une bonne santé physique. Il y a même des podcasts, des youtubeurs, de toutes sortes de livres qui sont sortis pour essayer de trouver le miracle du matin pour qu'on passe une bonne journée, vrai ou pas ? Toutes sortes de choses qu'on entend. Et on a même des personnes connues de l'histoire qui avaient certaines routines plutôt étranges. Par exemple, Honoré de Balzac, ce fameux écrivain français qu'on connaît, lui, il buvait 60 cafés par jour. Une routine. 60 cafés par jour. On a aussi l'architecte Le Corbusier, peut-être ça dit rien pour certains, d'autres qui sont dans ce domaine-là. Lui, il commençait ses journées par 45 minutes de gym suédoise avant de servir le petit déjeuner à sa femme. Ah, oh, ça c'est beau, hein? C'est beau. Je vois que Brice regarde sa femme et lui dit, tu vois chérie, je ne suis pas le seul à t'apporter le petit déjeuner le matin, tu vois. Et il passait du temps aussi à la contemplation artistique, peinture, dessin, écriture, et n'allait au bureau que quelques heures dans l'après-midi. Waouh, ça c'est bien, hein, chérie, ça c'est très bien, ça. Il y avait aussi Patricia Highsmith, ça c'est une romancière américaine. Elle n'était productive uniquement que lorsqu'elle écrivait dans son lit, entourée de cendriers, de mégots de cigarettes, d'allumettes, de donuts et d'un sucrier. Particulier hein, comme routine. Hein. Elle avait aussi l'habitude de boire un shot d'alcool avant de démarrer une session d'écriture. Chacun sa routine, ok? On avait aussi le compositeur, pianiste extraordinaire, Stravinsky, chef d'orchestre, qui ne pouvait seulement composer s'il était assuré que personne ne pouvait l'entendre jouer. Il pouvait composer uniquement s'il était sûr que personne n'était là à l'écouter. Et puis il y avait cette poétesse anglaise, Edith Sitwell, qui passait toutes ses journées dans son lit pour écrire. La légende raconte même qu'entre 5 et 6 heures du matin, vous voyez une routine là, entre 5 et 6 heures du matin, elle s'allongeait dans un cercueil ouvert afin de trouver l'inspiration pour ses fictions et ses poésies morbides. Chacun cherche l'inspiration là où il veut, hein, ok ? Routine. Et puis, j'aimerais vous parler d'un homme peut-être que vous connaissez un peu plus. Le roi David, lui aussi avait une routine. Ce compositeur, ce musicien, ce chantre, ce roi, et surtout cet homme selon le cœur de Dieu. Loin d'être un homme parfait, mais un homme selon le cœur de Dieu aussi avait une routine. Et on lit ça dans le psaume 5, verset 4. Éternel, le matin, donc on est dans une routine du matin, le matin, tu entends ma voix. Donc cela veut dire qu'il parle le matin. Tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Nous avons la routine du roi David ici, qui est écrite noir sur blanc. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. Et le matin, je regarde. Je te regarde. Alors j'aimerais non pas m'appuyer sur les routines qu'on a parlé avant le roi David, mais celle-ci m'intéresse particulièrement. Parce que je crois qu'il y a vraiment des clés importantes. Si nous voulons vivre une vie équilibrée, une vie enthousiaste, une vie de foi dans la durée. La vie, on le sait, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un long marathon. Un long marathon dans lequel il faut apprendre aussi à avoir une bonne routine. Une bonne routine, une bonne discipline. Ça, c'est des mots un petit peu aussi qui viennent un peu nous chercher comme ça, mais qui sont importants, une bonne discipline de vie pour durer dans le temps. Et là, j'aimerais simplement commencer avec le premier point, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le matin, je te parle. Après, la première personne à qui je parle, c'est à toi. Je m'adresse à toi. Et j'aimerais nous dire à tous cet après-midi, ce matin, assurez-vous de commencer la journée en parlant à la bonne personne. Je ne sais pas quel est votre réflexe le matin. Est-ce que le premier réflexe que vous avez, c'est d'allumer la télévision? Est-ce que le premier réflexe que vous avez le matin, c'est de prendre votre smartphone et de regarder les news, ou de regarder qui vous a écrit sur les réseaux sociaux, ou qui vous a envoyé un WhatsApp? Mais ici, il y a une routine importante que le roi David a mis en place. La première personne à qui il parle, c'est à Dieu lui-même. Je te parle, je m'adresse à toi, j'engage la conversation. Je te parle, c'est pas tu me parles, c'est je te parle. Je viens avec une intention de créer un dialogue avec toi, une discussion. Je choisis délibérément de me présenter devant toi. C'est mon choix, c'est ma décision. Je viens me présenter devant mon Dieu. Je suis à l'initiative. Quelle est notre initiative le matin quand nous nous levons? Que choisissons-nous? Quelle est la personne à qui nous choisissons de parler en premier? C'est important. Et j'aimerais nous le rappeler, Dieu est un grand bavard. Dieu aime parler. Dieu aime une conversation. Dieu aime converser avec nous. Dieu aime le dialogue. Dieu refuse le monologue. Il est celui qui aime la conversation, mais il est souvent celui aussi qui attend qu'on vienne jusqu'à lui pour engager. Il n'est pas là pour s'imposer, mais il est toujours prêt. Toujours. Vous entendez ça? Il est toujours prêt. Au moment même où tu te dis, j'aimerais engager une conversation, il est déjà là et il est prêt. Ce n'est pas que tu dois attendre qu'il vienne. Il est déjà là, c'est ce qui est dit dans Matthieu 6. Va dans la chambre, le Père qui t'attend, il est déjà là. Dans le secret, il t'attend. Au moment où tu dis, tiens, je vais m'adresser à Dieu, en fait, il est déjà là. Dieu n'est jamais en retard, Dieu ne se fait jamais attendre. Quand on veut converser ou dialoguer avec lui, il est toujours là. Avant même que nous commencions à ouvrir la bouche, il est déjà. Et il est prêt à parler, il est prêt à bavarder, il est prêt. Dans Jérémie 33, verset 3, il est dit que même Dieu a des secrets à nous confier. Il a des choses à nous dire. Des choses précises, individuelles, secrètes, juste entre lui et vous. Prenons cette bonne habitude de lui parler. Vous ne pourrez jamais lasser Dieu avec vos conversations. Vous ne pourrez jamais le lasser. Dieu dira, oh, j'en ai marre de t'écouter là, tu sais. Je suis fatigué, je dois m'occuper d'autres personnes et là tu me racontes. Non, 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 vous ne pourrez jamais lasser Dieu avec vos conversations. Au contraire, il aime quand on vient ouvrir notre cœur, s'adresser à lui, dès le matin, à l'aube, la première personne. Cela montre quelque chose. Tu es ma priorité. Tu es la personne la plus importante pour moi. La personne à qui je veux m'adresser en premier pour vraiment donner le ton de ma journée. C'est mon Dieu, c'est mon Sauveur, mon Créateur, celui qui tient toutes choses. C'est à lui que je veux m'adresser en premier. C'est lui qui mérite toute mon attention. Ma première attention, c'est lui. Ça, c'est important de pouvoir comprendre et réaliser que Dieu attend cela de nous aussi. Soyons débordants de reconnaissance, soyons débordants de louange pour lui, soyons débordants d'amour pour lui, soyons débordants et non débordés. Soyons débordants et non débordés. Oh, j'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ne soyons pas débordés quand il s'agit de prendre du temps avec Dieu. Soyons pas de ceux qui disent, oh, on verra demain. Ne repousse pas à demain. Chaque jour, il t'attend. Et il est prêt à ce que nous puissions nous adresser à lui et lui parler. Le psaume 92, verset 2 nous dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Il est beau de louer l'Éternel. C'est beau de louer l'Éternel. C'est ce qui réjouit son cœur. Quand son peuple, quand ses enfants viennent le louer et l'adorer, c'est beau. Et il est bon aussi pour nous de le louer, d'être dans sa présence dès l'aube, dès le matin. Alors, je ne sais pas quelle est votre routine matinale, mais il est beau de louer le Seigneur dès le matin, de lui rendre gloire, de lui donner les premiers mots qui sortent de notre bouche, c'est pour lui. Hier, j'ai parlé à votre équipe de louange et je leur ai rappelé simplement que la louange, c'est le langage de la foi. Ce qui sort de notre bouche, c'est le langage de la foi, c'est la louange qui doit s'exprimer. Et de se lever chaque matin et dire, Seigneur, merci pour cette extraordinaire journée que tu me donnes. Merci parce que ce jour que tu as fait est un jour de joie pour moi. Merci pour tout ce que tu m'accordes. Merci pour la grâce d'être en vie aujourd'hui. Merci pour la maison que tu me donnes. Voyez cette reconnaissance. Soyons pas des enfants ingrats et avares dans la reconnaissance que nous pouvons avoir envers notre Dieu. Nous ne méritions rien, mais il nous a tout donné par grâce. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas des propriétaires de ce que nous avons, nous sommes juste appelés à être des bons gestionnaires de ce qu'il nous a donné. À le reconnaître que tout ce que nous avons est une grâce, est un cadeau. La vie, nos enfants, nos familles, nos métiers, nos emplois, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons aujourd'hui est que le fruit de sa grâce. Cela lui appartient. Amen. Donc c'est beau de le louer dès le matin, d'annoncer. J'annonce. À qui tu annonces? Tu annonces au monde et tu annonces aussi aux puissances spirituelles. Tu annonces la bonté de l'Éternel. Tu annonces qu'il est fidèle. Tu déclares qu'il est fidèle. Et même si dans ton cœur et dans ton corps, il y a des choses peut-être qui te sont perturbées actuellement, mais tu annonces à qui tu appartiens. Tu annonces, tu déclares avec foi que mon Dieu est un Dieu fidèle. Ça, c'est la louange, c'est le langage de la foi. Et tu n'as pas besoin d'une équipe de louange pour t'accompagner chaque matin. Tu peux le faire, les anges sont là, le Saint-Esprit est là et c'est bien suffisant. Amen. Donc, bonne routine du matin. Première chose, je te parle. Je m'adresse à toi. Tu es la première personne à qui je parle. Deuxième chose, je me tourne vers toi. C'est ce qui est dit, je me tourne vers toi. Ce que David exprime, tu m'entends ma voix et le matin, je me tourne vers toi. Si tu te tournes vers Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu vas tourner le dos à quelqu'un. Tu vas tourner le dos peut-être à des situations. Peut-être tu vas tourner le dos à des circonstances. Mais tu choisis de te tourner vers lui et laisser des choses derrière toi. Et chaque matin, c'est une bonne habitude aussi de se tourner vers lui. Et de ne pas rester focalisé sur les difficultés de notre vie, sur les factures qui sont impayées, sur les choses qui nous tracassent, mais de tourner vers le tourner notre visage, notre corps, tout notre être vers Dieu lui-même. Et prenez ce réflexe de tourner les regards vers lui. Lève les yeux vers les montagnes, c'est ce qu'il nous est aussi encouragé à faire. Lève les yeux et tu verras d'où vient le secours. Le secours vient de l'Éternel. Mais tourne. Tourne-toi, littéralement, il y a une attitude qui est attendue, c'est de te tourner. Tu ne peux pas te tourner vers Dieu et regarder tes problèmes en même temps. Tu ne peux pas te tourner vers Dieu et avoir de la crainte, de la peur, c'est ce qui va arriver dans la journée. Là, quand tu te tournes vers Dieu, tu te retournes vers l'espoir suprême, vers le Dieu Tout-Puissant qui tient toutes choses entre ses mains, qui tient ta vie entre ses mains. Tournez le dos. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'évangéliste Moody? Ça vous dit quelque chose? 19e siècle. Un jour, il entra dans l'auditorium où il devait prêcher. Il y avait des milliers de personnes qui étaient réunies pour l'entendre, pour l'écouter. Et un homme va lui remettre un billet soigneusement plié comme celui-ci. Il va lui remettre un billet juste avant qu'il monte sur la plateforme, sur l'estrade pour pouvoir prêcher. Pensant qu'il s'agissait d'une info importante, il va prendre ce papier, il va le glisser dans sa poche et il va continuer de se frayer le chemin jusqu'à l'estrade. Et puis là, quand il arrive au pupitre, il décide quand même de déplier le papier parce qu'il s'est dit, mais peut-être qu'il y a une info importante en fait sur ce papier. Donc il déplie ce papier, comme je fais maintenant. Il déplie ce papier. Et puis là, il lit sur le papier. Un seul mot. Un seul mot figurait sur le papier. Et là, il se dit, waouh, incroyable. Moody ne va pas se laisser perturber par ce mot. Il s'adresse à la foule et il va dire la chose suivante. Déjà plusieurs fois dans ma vie, j'ai reçu une lettre que l'expéditeur avait oublié de signer. Mais en entrant dans cette salle aujourd'hui, on m'a remis une feuille portant un seul mot. Et c'est le mot qu'on lui a remis avant qu'il monte sur l'estrade. Idiot. Ça, c'est le mot qu'on lui a remis. Et voici ce qu'il va dire. Je dois dire que cela sort vraiment de l'ordinaire, car pour la première fois de ma vie, je reçois une lettre signée par un individu qui a oublié d'écrire le message. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Certaines personnes se sentent dès le matin oppressées, blasées, déprimées, peut-être accusées, peut-être agressées aussi par des pensées négatives, par la culpabilité, idiot, idiote, pécheur, immonde, qu'est-ce que tu as fait hier ? Toutes ces accusations, ces agressions qui viennent dès le matin. Idiot, idiot, tu n'arriveras à rien. Tu ne réussiras pas aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que si on t'accuse, si on te critique, ou si on t'insulte, c'est que tu déranges. C'est que ta présence dérange. C'est que ce que tu es en train de faire ou d'entreprendre dérange. Et là, le psaume 42, verset 2, encore une fois, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Chez nous, la pluie, comme hier, il y a eu, on a tous eu froid, il y avait de la pluie, il y avait du vent. Ça, c'est signe de mauvais temps pour nous, vrai ou pas ? Quand la pluie vient, c'est « Ah, on n'aime pas la pluie. » Après quelques jours pluvieux, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie que le soleil revienne. D'ailleurs, on le dit, après la pluie vient toujours le beau temps. Ok, c'est un dicton qu'on a. Mais en Palestine, c'est justement le contraire. Pourquoi ? Parce que de mai à septembre, le soleil brille constamment et il brûle tout. Il brûle tout, il n'y a plus rien, tout est sec, tout est brûlé. Et il y a peu de rivières qui coulent aussi pendant l'année à cause de ce soleil. C'est sec, aride. Et alors, qu'est-ce que fait la biche ? Elle va chercher un lieu, elle va chercher un courant d'eau. Pourquoi ? Pour survivre. Pour trouver de l'eau pour vivre. Sans eau, elle va mourir. Quand elle est en danger, quand elle sait qu'elle est sur le point de mourir, la biche va chercher un courant d'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Et là, le psalmiste dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Quand mon âme est sur le point de mourir, quand mes émotions sont sur le point de tout abandonner, quand mes pensées sont complètement bouleversées parce que je peux entendre dans mes pensées, je suis comme cette biche qui soupire après des courants d'eau. Je sais que tu es la source dont j'ai besoin. Je tourne le dos à toutes ces choses et je viens boire à la source, cette source de vie, cette source éternelle. Je soupire après ces courants d'eau. Le psalmiste qui va s'identifier à cette biche, qui ressent lui aussi cette soif ardente. Et peut-être dans notre vie, nous ressentons aussi cela. Personne n'est épargné. Parce que nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes des êtres faillibles. Nous sommes des êtres qui pouvons nous laisser influencer par différentes choses de notre vie. Et nous sommes tous égaux de cette manière-là. Nous sommes tous humains, charnels. Mais le psalmiste nous dit, moi, je tourne le dos à ce qui est charnel pour aller vers celui qui est éternel, vers celui qui me connaît parfaitement, celui qui va me nourrir. Ma source, c'est lui. Ma source, ce n'est pas ce que le monde peut m'offrir, mais ma source a un nom. Il s'appelle Dieu lui-même, incarné en Jésus-Christ venant sur terre. C'est lui ma source. Et je suis comme cette biche. Sans lui, je meurs. Sans lui, je suis mort. La réalité aujourd'hui, c'est de nous dire, est-ce que vraiment sans Jésus, sans la présence de Dieu, nous sommes morts ? Ou alors nous sommes tellement attachés à tellement de choses ici-bas, que Dieu vient simplement apporter un supplément à notre vie, à notre existence ici-bas. C'est juste un petit peu comme la cerise sur le gâteau. Ou alors ce qui est véritablement, il est la source dont nous avons besoin tous les jours. Sans lui, je suis comme cette biche qui meurt. Sans lui, je ne peux aller nulle part. Si je ne trouve pas la source, la source. Un auteur que j'aime particulièrement, qui s'appelle Watchman Nee, a dit la chose suivante. Il faut que Dieu soit la source et les autres des ressources. Mais nous, nous attachons beaucoup de choses et d'importance souvent aux ressources autour. Qu'est-ce qui peut m'aider? Qu'est-ce qui peut faire ça? Vite, j'appelle mon pasteur. Vite, j'appelle un frère. Vite, j'appelle une sœur. Vite, j'appelle mon collègue. Vite, il faut que je trouve des ressources alors que la source est disponible. Mais nous ne choisissons pas de tourner le dos à ces ressources. Bah, on ne tourne pas le dos, c'est pas dire qu'on ne communique plus, il n'y a plus de relation. Mais on va vers la bonne source, celle qui peut changer notre vie. Celle qui va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Celle qui va satisfaire notre âme. Celle qui va changer notre vie. Celle qui va nous donner une nouvelle perspective de vie. Dieu lui-même, et Dieu n'en attend pas moins de ta part. C'est pour ça que Jésus a été envoyé. Pourquoi ? Pour que tu puisses aller directement à la source. Allô, il y a quelqu'un ou vous êtes là ce matin ? Allez à la source. De quand date ta dernière rencontre avec Dieu à la source ? Tu dis, mais moi le dimanche, c'est là où je viens à la source. Je viens pour qu'on me donne à manger, qu'on me donne à boire, que... pour que les gens me nourrissent. Mon ami, il y a beaucoup plus que cela. Ne te satisfais pas juste d'une petite heure et demie avec tes amis ici. C'est bien, très bien, mais Christ n'est pas mort pour ça. Christ est mort pour que toi-même tu expérimentes la source. Tous les jours, jour et nuit. Je te parle et je tourne le dos. Je m'adresse à toi, je suis... déterminé à marcher jusqu'à la source et aller me nourrir directement à la source. Et nous avons la source avec nous, elle est là. Souvent, peut-être avec un petit peu de poussière, les pages ne sont pas bien, bien usées. Mais nous avons la source, la parole de vie. Cette parole vivante, c'est notre source. Sa présence, tous les jours. Se tourner vers lui est la plus importante des décisions que vous pouvez prendre chaque jour. Je te parle et je me tourne vers toi. Ce serait quand même impoli de vouloir parler à Dieu en lui tournant le dos. Vous avez déjà essayé de parler avec quelqu'un? Et puis en fait, vous aimeriez parler avec la personne, mais à chaque fois que vous la regardez, elle vous tourne le dos. Vous n'allez pas le faire longtemps. Généralement, vous allez dire, hey, je suis en train de te parler. Ouais, c'est très bien. Oui, mais en fait, j'aimerais juste que tu me regardes. Quand je te... Non, mais moi, je te tourne le dos. On le vivrait mal, n'est-ce pas? Et parfois, nous sommes là dans notre situation le matin, nous nous adressons à Dieu, mais nous ne tournons pas le dos à toutes ces circonstances, à toutes ces choses. Nous sommes encore dedans, nous vivons là-dedans, nous sommes submergés par toutes ces choses-là, et nous essayons de nous adresser à Dieu. Non, il faut tourner le dos à ces choses-là, prendre une décision. On de dire, non, ce n'est pas ces choses qui me dictent, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que je vois, mais ma foi est dans celui que je ne vois pas, mais je sais qu'il est là. Je vais à la source, et tout ça je laisse derrière, et je vais parler à Dieu, je vais regarder face à face. Et quand la dernière fois que tu as pris la parole de Dieu et que tu as regardé la parole de Dieu face à face, tu as lu ces mots, pas juste quelqu'un qui te donne un bon message, un bon podcast, ça ce n'est pas la source, ça c'est une ressource. Beaucoup de gens, j'entends aujourd'hui, oui, moi j'écoute des messages. Tu ne peux pas te nourrir de ce que les autres ont reçu eux-mêmes pour eux. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Tu sais d'ailleurs, il va te dire que l'histoire de ta vie est écrite dans ce livre. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards d'habitants sur cette terre. Il y a 8 milliards de projets qui sont écrits dans ce livre. 8 milliards de projets. 8 milliards ici. 8 milliards. Il faut que tu fasses le choix de tourner le dos et d'aller à la source pour découvrir le projet que Dieu a pour toi. Honore cette parole. Honore la personne de Dieu. Prends une bonne habitude dès le matin. Et puis, la dernière chose, le dernier point, donc, je parle, je te parle, je tourne le dos et ensuite je regarde. Je te regarde. En 1928, les éditeurs d'une revue allemande avaient appris que le grand savant Albert Einstein était aussi un magnifique violoniste. Peut-être que vous ne saviez pas ça. Albert Einstein était un très bon violoniste accompli. Et puis il le talonnait, il cherchait à lui faire dire ce qu'il pensait de Bach, Jean-Sébastien Bach. Alors il va leur répondre sur un ton assez sec, ce que j'ai à dire de l'œuvre de Bach. Écoutez-la, jouez-la, admirez-la et taisez-vous. Est-ce que nous ne devrions pas avoir un peu cette même attitude avec l'œuvre de notre Dieu? L'aimer, la chérir, l'écouter, la chanter, l'appliquer à notre vie et faire taire toutes les autres voix qui aimerait dominer sur la parole de Dieu, l'admirer, la vivre sans discuter, sans hésiter. C'est une décision qui nous revient à chacun. Et j'aimerais nous dire ce matin que se taire devant Dieu est aussi important que de lui parler. Apprenons parfois à faire silence devant Dieu dans le sens où sa parole est plus importante que la mienne. Nos temps de prière devraient être 10% je parle et 90% je t'écoute. Mais le problème, c'est que nous venons, nous déballons tous nos sujets, une petite prière tour du monde, comme je les appelle. Vous faites le tour de tous vos problèmes, de tous vos membres de famille, et c'est très bien, c'est très bien. Mais puis, au moment où Dieu aimerait répondre, à demain, il n'a même pas le temps de répondre. Nous sommes débordés et non débordants. Soyons débordants de reconnaissance, d'amour, au donneur pour que nous puissions l'écouter plus que nous lui parlons. Parce que c'est sa parole qui change nos vies. Parler à Dieu ne change pas grand-chose. C'est quand lui parle que ça change. C'est pour ça que sa parole est importante. Il parle, et il a parlé longtemps. C'est quand même 1600 ans d'histoire qui sont écrites ici. Vous avez un livre qui vous retrace 1600 ans d'histoire, vous ? Il n'y a que la Bible qui retrace 1600 ans d'histoire. Il a parlé. C'est une lettre d'amour, c'est une lettre extraordinaire qu'il a laissée à chacun d'entre nous pour qu'il puisse s'adresser à nous parler directement. Le problème, ce n'est pas que nous ne croyons pas que cette parole est la vérité, mais nous ne croyons pas toujours qu'elle est la vérité pour nous. Nous n'avons pas toujours la foi nécessaire pour croire que ce qui est écrit ici est pour chacun d'entre nous tous les jours. Nous avons des fois plus de facilité à le croire pour les autres, mais pas forcément pour nous. Cette parole est pour toi, mon ami, ce matin. Elle a été écrite pour toi. Des vies ici, des histoires de vie, des témoignages, des hommes, des femmes, des bergers, des rois, des prophètes, des poètes, des musiciens, des chantres, toutes ces histoires ici nous révèlent le cœur de Dieu. La source est là. Alors il nous faut apprendre à regarder, à méditer, à contempler, se taire devant lui. Le psaume 8, verset 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, quand je contemple... » Est-ce que nous nous arrêtons de temps en temps pour contempler l'ouvrage de ses mains? Bien sûr, il y a la nature qui nous aide à cela, qui est extraordinaire. Et il ne faut pas se lasser de cela. Mais aussi toute l'œuvre de ses mains dans notre vie. Est-ce que des fois vous vous arrêtez juste pour regarder tout ce que l'Éternel a fait? Tout ce qu'il a fait dans notre vie. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Mais juste peut-être aujourd'hui, hier, qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? Wow, je contemple tout ce que tu as fait. En le contemplant, c'est en le reconnaissant comme le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Suprême. Ouvrage de tes mains. Le psaume 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » J'ai l'Éternel sous mes yeux, je le contemple, je le vois, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là, il est avec moi. Et je lui donne la place qui lui revient. Genèse 15, verset 5, « Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel. » Compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Lève les yeux. Regarde, contemple tout ce que Dieu a fait. Et j'ai envie de te dire ce matin, lève les yeux. Ne regarde pas à tout ce qui te manque. Regarder ce qui te manque ne changera rien. Regarder le ciel peut tout changer. Regarder à lui, regarder à celui qui est la source peut tout changer. Contemple. Contemple sa grâce. Contemple tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Contemple. Remercie-le. Rends-lui grâce pour tout ce qu'il a accompli. Contemple. Et j'aimerais nous dire que notre Père dans le ciel cherche sans cesse notre attention. Il cherche notre attention. Il cherche à nous parler, à nous guider, à nous encourager. Prenons le temps nécessaire pour qu'il le fasse. Prenons le temps. Alors, prenons le temps chaque jour, comme le psalmiste. Une bonne habitude, une bonne routine matinale. Une bonne routine du matin pour faire quoi ? Pour parler. C'est très pratique ce que je vous partage ce matin. Mais je sais que si vous commencez à appliquer ça dans votre vie, cela va changer les jours, ça va changer le ton de vos journées. Ça va illuminer vos vies. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on s'adresse à Dieu, cela change nos vies. Ça change l'environnement, ça change l'atmosphère là où on se trouve. Donc quand je me lève, je te parle. Je tourne le dos, je viens vers toi. Je laisse tout derrière, je m'approche près de toi. Et ensuite, je contemple. Je contemple, je prends ta parole, je contemple tout ce que tu as fait. Je pense et je médite sur tout ce que tu as accompli dans ma vie, sur la grandeur de ton nom. C'est ça, cette vie d'adoration et de louange que nous sommes appelés à vivre tous les jours. Je contemple. Il n'y aura jamais, écoutez bien, je termine avec ça, il n'y aura jamais, 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 de substitut au temps consacré que nous avons dans une relation avec Dieu. Vous ne pourrez jamais, jamais remplacer, il n'y a pas de substitut au temps que nous choisissons de prendre avec Dieu. Vous ne pourrez jamais compenser ce manque par autre chose. Ni un podcast, ni un YouTube, ni rien du tout ne viendra remplacer ce que seul Dieu est capable de vous donner. J'aimerais nous dire, nous l'avons entendu ce matin, ça a été partagé pendant la scène, le voile a été déchiré, l'accès est disponible, et parfois nous, nous restons de l'autre côté du voile. Le Seigneur te dit, mais tourne le dos, viens jusqu'à moi, entre dans ma présence, entre dans le lieu très saint, viens jusqu'à moi. Jésus a ouvert la voie pour chacun d'entre nous, pour que tu puisses me connaître, découvrir qui je suis, et pas être dépendant des circonstances ou des personnes qui t'entourent, apprendre à dépendre de Dieu seul. Vos pasteurs seront contents. Grandissons, soyons un peu plus matures. Grandissons dans notre relation avec lui. Il guidera vos pas, il guidera vos vies. Il saura vous parler. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne parle pas. Enfin, si, ils pensent que Dieu parle, mais pas à eux. Mais ça, c'est le plus grand piège de l'ennemi, c'est de vous faire croire que Dieu parle aux autres et pas à vous-même. Parce que tant que Dieu ne parle pas, tu ne bouges pas. Mais quand Dieu te parle, quand il commence à s'adresser à toi, quand tu réalises que cette parole est pour toi, c'est ça qui te donne du mouvement, qui donne la foi. C'est pour cela qu'il nous faut parler à Dieu, tourner le dos au reste et regarder et contempler qui il est. Alors prenons ces bonnes attitudes. Ces bonnes habitudes, cette bonne routine matinale pour vivre une vie différente. Pour apprendre à découvrir qui est cette source. Cette source intarissable. Vous entendez, c'est une source intarissable qui ne s'épuisera jamais. Vous pouvez passer tous les jours de votre vie, toutes les heures de votre vie à cette source. Elle sera là encore, disponible, encore et encore et encore et encore. Alors pourquoi hésiter ? Un moment de plus, une journée de plus. Viens à la source. Viens découvrir ce Dieu merveilleux. Juste avant qu'on prie, j'ai ramené deux ressources. Ce n'est pas la source, c'est des ressources. Des ressources justement pour vous aider dans votre vie de prière. C'est un livre qui s'appelle « Nouveau départ ». Il était disponible hier aussi. Beaucoup, il reste quelques copies, vous pouvez vous le procurer là-bas. Et puis, une autre ressource pour être un véritable canal de bénédiction pour les gens qui sont autour de vous, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Vous pouvez le procurer, il s'appelle Pasteur pour ceux qui ne vont pas à l'église. Et l'autre s'appelle Nouveau Départ, hein, vraiment un parcours de prière. Ça, c'est des simples ressources. On a besoin de ressources. Moi, j'ai beaucoup de ressources. Mais elles ne remplaceront jamais ma source. Jamais. Je dois lire la Bible plus que tout autre livre. Je dois passer du temps avec Dieu, avec lui plus qu'avec quiconque. Parce qu'il est ma source. Il est ma source. Sans lui, je suis perdu. Il est mon guide. J'ai fait choix de m'abandonner entre ses mains. Ma vie ne m'appartient plus. C'est lui qui guide ma vie. Donc c'est vers lui que je dois aller voir. C'est vers lui que je dois me tourner. C'est lui que je dois parler. C'est lui qui tient ma vie entre ses mains. C'est-à-dire que le mat n'existe plus. Il est mort. J'ai été mis à mort à la croix. J'ai été mis à mort. J'ai choisi d'être mis à mort pour que Christ vive en moi. Donc si aujourd'hui Christ vit en moi, c'est de lui dont je dépends. Il est ma vie. C'est pour ça que je dois me connecter à la source, vivre à la source, pour que ma vie puisse être une vie qui l'honore, qui l'élève et qui réjouisse son cœur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et on va prier.